There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut à tous, vous écoutez l'épisode numéro 223 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour m'accompagner dans ce nouvel épisode consacré aux playoffs. On avait besoin, vous l'avez vu dans le titre, on va parler un peu des Bucks, on avait besoin d'un sniper. Le sniper en titre de l'équipe DH est avec nous, c'est Madiane. Comment ça va Madiane?
Ça va très bien, très en forme.
Ah, c'est pas une bonne nouvelle pour les Bucks ni Giannis, c'est pas une très bonne nouvelle pour eux. Et enfin, alors... on accepte de lui parler, Madiane et moi, bien qu'étant fans de l'OM, jusqu'à 21h. Après, plus rien ne sera pardonné, c'est Ilias. Comment ça va, Ilias?
Plutôt pas mal, les gars. En tout cas, pareil, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et je dois pas cacher que je commence à vraiment me faire à ces playoffs et qu'on voit des choses plutôt pas mal depuis quelques semaines, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire de manière négative ou positive. Mais en tout cas, on est face à quelque chose de sympa. Donc, je suis très content d'être là pour en discuter.
C'est vrai que, juste, alors une aparté dans cette intro... on avait cette peur, moi aussi je l'avais un peu exprimé dans les semaines précédant l'arrivée dans la bulle. J'avais peur qu'en septembre on se tape un mur et j'ai pas l'impression. J'ai l'impression justement qu'il y a quelque chose qui se crée là.
Bah ouais, totalement. Moi j'étais parmi les sceptiques. Enfin, si on se reporte à ce qu'on s'était dit lors de l'émission où on était tous présents d'avant playoff, moi j'avais encore un petit peu de mal à me faire à la bulle et ce qu'elle comportait. Mais au fil des semaines, on commence à s'y faire. Le basket a repris ses droits et on a quand même, en tout cas pour certains joueurs et certaines équipes, de vrais niveaux de playoff et c'est assez agréable à regarder.
Oui, clairement. En plus, ben, pour la première fois depuis bien des années à l'Est, nous n'avons ni le 1 ni le 2 en finale de conf. Donc ça prouve à quel point ces playoffs nous ont apporté des choses surprenantes. D'entrée de jeu, il y a eu des premiers tours extrêmement intéressants, des demi-finales de conf encore plus intéressantes. Et vraiment, moi, j'adore ces playoffs.
Et ben justement, ces demi-finales de conf, on va y revenir sur celle-ci aujourd'hui avec le tonitruant, la surprise, même si vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, on pouvait l'anticiper, les Bucks ont été éliminés, on va donc parler de l'après pour l'équipe de Giannis. On va aussi revenir sur toutes les demi-finales de conférence avec déjà certaines équipes éliminées, on pense aux Rockets, on pense aux Raptors, et cette série qui, à l'heure où on enregistre, puisqu'on enregistre avant la tenue du match de dimanche entre les Nuggets et les Clippers, se joue toujours, même si on pense hein, que les coéquipiers de Kawhi vont réussir à s'en sortir. Bref, le programme, il est très chargé. Alors, on vous rappelle juste de vous abonner sur les plateformes de podcast, d'aller écouter le podcast Le Safety, ça c'est une petite promo personnelle avec Alan et moi-même, puisque la saison NFL reprend, et puis de nous suivre sur Twitter, et puis sans plus attendre, on débute ce podcast numéro 223. Et voilà, c'est fini. Les Bucks ont donc été éliminés des playoffs. Pas surprenant, comme je vous l'ai dit, au vu de ce qu'ont pu dire Alan, Adrien et Pierre la dernière fois. Aujourd'hui, on va plutôt parler des conséquences de cette élimination et de l'après. Puisque ça s'est très vite accéléré du côté des Bucks. Giannis a rencontré le propriétaire des Bucks samedi dernier. Il aurait demandé une construction de l'équipe un peu plus audacieuse. On rappelle que Giannis entre dans sa dernière année de contrat et que déjà les rumeurs courent. Madiane, tu peux activer le AK-47. Clairement, est-ce que le temps presse là pour les Bucks? Est-ce qu'on est cet échec-là, ça accélère et ça met un peu tout dans la franchise à feu et à sang?
Oui, ça. En fait, ça leur montre qu'ils sont plus loin que ce qu'ils pensaient. Et c'est ça finalement l'enseignement de cette défaite face au Heat, c'est que les Bucks pensaient être pas loin et s'ils étaient tombés en finale, les armes à la main, contre une des équipes de Los Angeles. Disons que ça aurait moins mis le feu aux poudres à la franchise. Là, le problème, c'est qu'on les voit tomber face à une équipe qui a su profiter, certes, de la bulle pour intégrer leurs recrues, Crowder et Iguodala, et du coup se construire une base défensive très surprenante qui a surpris les Bucks. N'empêche que à aucun moment on ne pouvait s'attendre à ce que les Bucks tombent aussi tôt dans ces playoffs. Donc pour moi, en fait, ça met très vite le feu aux poudres parce que ils se rendent compte, et Giannis n'est pas stupide et du coup s'en rend bien compte, qu'ils sont très loin du compte. Ils sont extrêmement loin du compte, et à partir de là, évidemment, ça provoque ce genre de choses.
Même constat pour toi, Elias, cette défaite donc 4-1, puisqu'ils en ont arraché un de match malgré la blessure de Giannis, parce que oui, c'était vraiment le naufrage de Titanic pour les Bucks avec cette blessure de Giannis. Est-ce que c'est le même constat pour toi, le constat d'une équipe qui certes, depuis 2 ans, fait 2 bonnes saisons régulières, mais qui en réalité, quand c'est le moment des playoffs, n'est pas si loin que, et très loin justement d'accrocher le trophée?
Bah en fait la problématique elle est là, c'est-à-dire que là on est dans une phase même pas de stagnation mais de régression pour les Bucks, alors que ils ont tout ce qu'il faut en magasin normalement pour pouvoir au moins faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ont gardé le même groupe, donc en termes de cohésion et de système, je pense qu'il y a quand même de quoi faire et avancer. Et ensuite, j'ai quand même l'impression, aussi fort que soit le Heat, et toi et moi, on sait un petit peu l'affection que je peux avoir pour cette équipe, mais entre nous, le Heat me semble quand même moins fort que les Raptors de l'année dernière. Donc moi, c'est ça que j'aimerais souligner, c'est-à-dire que t'as le même groupe, t'as un double MVP dans ton équipe, t'as normalement une certaine cohésion, un vécu, etc. Mais tu tombes à un stage précédent, c'est-à-dire à une étape précédant les finales de conf que tu avais atteint l'année dernière, et face à une équipe qui, en tout cas sur le papier, semble être moins forte. Donc là, clairement, là, on est dans une phase ultra négative pour les Bucks. Et le pire dans tout ça, c'est que tu perds encore une année sur le contrat de Giannis, qui te ramène encore plus au niveau du coup près, c'est-à-dire le fait qu'il puisse être free agent et donc potentiellement quitter l'équipe des Bucks. Donc ça va être des semaines assez compliquées pour les Bucks, et va falloir convaincre Giannis de rester, et va falloir, je pense, faire des choix, parce que là on est clairement dans un cas où on est en droit de se poser des questions. Si par exemple Miami était sorti face aux Bucks, on ne se poserait pas ces questions-là. Ça nous semblerait même logique. Mais là le problème, c'est que Milwaukee ne fait pas que perdre, en fait. Ils se font carrément défoncer littéralement sur toute la série. 4-1, et on sait que le seul match qu'ils gagnent, c'est lors d'un match en overtime, et il a fallu pour cela un Chris Middleton qui sort de ses standards, de performance moyenne pour aller chercher le match. Mais elle est là, la problématique, c'est que tu te fais littéralement défoncer et t'as été sans solution.
Alors ça va être difficile de passer à côté de ce débat de Giannis, parce que pour révéler un peu ce qui se passe hors micro, je crois que c'est toi, Elias, qui a dit que ça va être difficile de passer à côté de ce débat. Alors ouvrons ce débat qui fait rage d'ailleurs dans la conversation interne du site. Quid de Giannis? Alors, contrairement à ce qui peut se passer dans un tribunal, je vais pas donner la parole à la défense. Je vais te lancer, Madiane, sur ça. Giannis, alors, je vais parler en dernier parce que je pense que j'ai depuis acquéri le statut de défenseur de Giannis, je pense, sur la conversation. Mais je remets un peu beaucoup dans le contexte ce qu'il a fait. Mais je vais d'abord donner la parole à toi, Madiane. Giannis, est-ce que c'est le moment de clairement remettre certaines choses en question vu sa série?
Alors, il y a c'est difficile de tout remettre en question. Il y a néanmoins des choses, moi, qui m'ont fortement interrogé l'an dernier, et malheureusement, j'ai trouvé que personne ne lui a mis dans la tête la perte de la série face aux Raptors, alors que pour moi, il avait quand même un rôle à jouer, et j'ai trouvé quand même certaines choses extrêmement limites dans son jeu. Soit on a passé sur ses défauts qu'il pouvait avoir dans son jeu, et du coup on les revoit revenir, on les a évacués par la fenêtre l'an dernier, ils reviennent pas à porte d'entrée cette année. Déjà, un, ton franchise player qui tire sur une série à 53% au lancer franc, ce n'est pas possible. Il y a aucun, il y a personne. Il y a personne. À moins d'être le chat, il y a personne. Ce n'est pas possible. Il y a aucune excuse. 21,4% de loin, ce n'est pas possible non plus. Et on en vient du coup au problème, c'est qu'il est tombé sur l'équipe sur laquelle il ne fallait pas qu'il tombe, le Heat, qui lui envoyait alternativement Adebayo, Crowder, un peu d'Iguodala, un peu de Butler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simple, ils lui ont dit « shoot, shoot mon grand ». Tu n'auras pas accès à la raquette, shoot, tu nous battras par ton shoot ou tu vas perdre. Ben, il les a pas battus par le shoot. Il les a clairement pas battus par le shoot. Et malheureusement, il n'a pas réussi à faire autre chose. Et de par le manque d'accès au cercle, il a souffert en fait finalement dans ce qui pouvait faire la force, sa capacité à également trouver ses coéquipiers, à libérer l'espace parce qu'il monopolisait la raquette avec un five out. Et du coup, Giannis est descendu. L'entièreté de ses coéquipiers n'a pas pris finalement le relais parce que il comptait sur lui pour cette première lame. Et en fait, l'entièreté de l'attaque des Bucks en a souffert. Mais au-delà de cette attaque, les choix défensifs sur lesquels était Giannis, ça a été tout le temps d'être sur un Jay Crowder et ou un Iguodala, mais surtout Crowder, de venir en aide à chaque fois que le Heat venait en accès à la raquette et de laisser les shooters du Heat tirer. Eh ben, le Heat a tourné à 37,3% à 3 points. Fin du match. Tu n'as pas...
Après, il est pas responsable des consignes défensives.
Ah, il est pas responsable des consignes défensives. Mais en fait, au bout d'un moment, en tant que superstar, tu dois quand même avoir le recul de te dire que ça ne va pas. Et quand on lui demande, après le game 1 de Butler, pourquoi vous n'y êtes pas allé, il a dit, c'est pas à moi de le faire, ou quelque chose comme ça. Il avait répondu de manière très... Enfin,
ouais, il a botté en touche un peu.
Il a botté en touche. Alors que... je suis pas sûr que tu fasses ça à un LeBron ou un Kawhi.
Mais c'est...
Est-ce que vraiment c'est, ils auraient
pourquoi,
laissé la situation?
Pourquoi on le compare à LeBron et Kawhi?
Moi, parce que, allez, parce qu'il est double MVP en titre. Enfin, il va l'être.
On sait parfaitement qu'il est pas du même niveau.
Ah,
on
bah voilà! Il n'est pas du même niveau. Bah non.
Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que on était tous autour de cette fameuse table pour ce podcast ensemble. Déjà, personne n'a cru. Alors, je rejoins Elias. On pouvait croire dans le Heat. Je m'attendais pas, même si je les ai donnés dans un bracket un peu fantasy, je m'attendais pas à une telle domination et à des Bucks aussi faibles. Même si, quand on regarde avec un peu de recul sur la bulle, ils ont pas été bons, en fait. Ils ont jamais été bons à l'intérieur de la bulle. Bref. Mais en haut, personne n'a jamais cru entre nous, hein. Personne n'y a jamais cru pour les Bucks champions. On avait des doutes pour ce qui est même des Bucks en finale NBA. Alors qu'on vienne, je comprends tous les critiques vis-à-vis de Giannis, je m'expliquerai peut-être un peu mieux après. Mais en fait, pour moi, c'est comme quand je lisais sur les réseaux sociaux, ah, LeBron était en moins entouré dans les années 2000. Merci. On n'a jamais comparé Giannis à LeBron. En fait, je comprends pas.
Les deux cas sont totalement différents. Ouais.
C'est ça, en fait.
En termes d'individualité, c'est-à-dire pour chacun des deux joueurs, et même en termes de supporting cast, on n'est pas du tout dans le même contexte pour moi.
Et puis Giannis, alors il a deux MVP, je comprends, mais pour moi, en fait, Giannis, il est pas dans cette, et le DH20 qu'on avait fait montrer ça de la part des auditeurs, il est pas dans le trio. LeBron, Durant, Kawhi. Il y est pas.
Eh ben, mais là, tu parles, enfin, et tu as raison, c'est que nous avions tous nos doutes, chacun entre nous, et on a bien fait, clairement, ça nous a pas donné tort, mais, là, je parle plutôt de manière plus générale, on a voulu le considérer dans cette galaxie, il n'y est pas. Il n'y est clairement pas. On est tous d'accord. Et on en a la preuve 2 ans de suite.
Je pense. Ton avis, Ilias, mais pour moi, en fait, c'est ça qui m'a, par rapport à ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, en fait, Twitter, ça m'a assez énervé de voir ces comparaisons-là, parce que pour moi, il est dans ce second tiers avec des James Harden, des Curry, même s'il y a cette question autour de Curry.
Je peux même pas. Il est pas dans le tiers de Curry, hein.
Ça fait combien d'années, Madiane, qu'on n'a pas vu un grand Curry en playoff?
Les finales de l'an dernier.
Il est bon quand même l'an dernier, lors des finales. Hein. Ouais, il est
à partir de la blessure du, à partir puis, des blessures puis, de KD, il est bon. Hein.
Et puis, enfin bref, je vais laisser la parole à Elias, mais il y a eu des grands moments où j'ai dû moi-même écrire des articles défendant Curry. En fait, pour moi, cette seconde classe de superstars, elle est constamment remise en question en playoff. Ne pas être remise en question, ne pas être remis en question en playoff, c'est l'apanage de deux ou trois joueurs NBA. Et Giannis n'est pas dedans et je peux pas lui en vouloir parce que c'est pas sa place dans la ligue.
Moi, concernant Giannis, j'ai surtout un souci et je vais mettre un petit peu les stats de côté. Je suis pas non plus un grand féru de stats. Évidemment, elles sont là pour donner un petit peu de sens et d'image à ce qu'on peut souligner, mais moi, le problème concernant Giannis, il est surtout visuel. J'ai l'impression en fait que son jeu n'évolue pas, et je ne parle pas que du shoot, qui est de plus en plus catastrophique. La mécanique en elle-même, c'est-à-dire que rien que sur l'aspect visuel, t'as l'impression que son shoot est encore plus décomposé qu'avant. C'est-à-dire que il a son bras qui se bloque et qui envoie très régulièrement trop court, et ça généralement c'est pas sur le plan technique quelque chose de très positif, et au-delà de ça, j'ai l'impression en fait qu'il est pas capable de s'en sortir autrement qu'en pénétrant. C'est-à-dire que il n'a pas, en plus, tu sais, cette capacité qu'aurait un LeBron par exemple à être un facilitateur pour les autres, alors que je sais que le supporting cast des Bucks et de Giannis a été énormément remis en question, que ce soit Middleton, Bledsoe et les autres. Mais moi, j'estime que vraiment autour de lui il y a ce qu'il faut. Peut-être que Budenholzer ne les a pas encore suffisamment mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mettre à profit chacune de leurs qualités respectives, mais je trouve qu'il y a le matos en termes de défense, il y a le matos en termes de shoot, il y a en tout cas de quoi mettre un jeu moderne en place et de quoi faire mal à énormément d'équipes. Mais j'ai l'impression que Giannis, dans le rôle qui devrait être le sien, n'arrive pas non plus à mettre les autres dans ce confort-là. Je sais qu'il y a une partie qui est référente au coach, mais il y a aussi sa capacité à lui. Mais tout simplement, en fait, comme tu le soulignais, pour pouvoir être aussi en capacité de faire ça, faut appartenir à une autre gamme de joueurs. C'est-à-dire que quand bien même un mec comme LeBron James n'aurait pas le meilleur des shoots, il n'a pas le shoot de KD, il n'a pas le shoot de James Harden, il n'a pas le shoot de Steph Curry, mais on sait qu'il appartient à une autre classe de joueurs, cette capacité à être un leader. On sait qu'il est capable de peser sur un match autrement qu'en shootant ou en scorant. Et c'est en ça que Giannis n'arrive pas à évoluer. Rien qu'en attaque, on a vu qu'il n'était pas capable de faire autre chose que driver, spinner, enfoncer et marquer. Et on sait qu'en playoff, il va falloir un minimum s'adapter. C'est-à-dire que les défenses sont plus fortes, les défenses sont plus resserrées, plus attentives, ciblent les stars, et en plus, les arbitres sont un petit peu moins enclins à signer, bien que j'estime que par moment il a été sifflé de manière assez généreuse. Donc c'est en ça que Giannis m'a inquiété, et je trouve que dans le CV d'un joueur comme lui qui est en passe d'être double MVP, quand bien même il n'appartiendrait pas à la caste des joueurs qu'on a cités, ça fait quand même tâche de voir ce qu'on a vu.
Je trouve personnellement, avant de redonner la parole, Madiane, peut-être pour en finir avec les dernières balles, je trouve personnellement que on a trop mis de la pression du côté des Bucks sur la qualité de passe de Giannis, et que Giannis, ce n'est pas le passeur qu'on a voulu nous faire croire. Alors je dis pas, je prends le rôle de l'avocat de la défense. Bien sûr que j'étais déçu de Giannis, même si de base j'en entendais pas mondes et merveilles. J'ai été extrêmement déçu de la copie rendue, mais moi je suis assez choqué de voir que dans cette équipe, je regardais les stats par rapport à ça, il y a très peu de joueurs qui sont en capacité de fournir à Giannis un pick and roll où Giannis est poseur d'écran. Et on sait que ça, c'est une arme létale, parce que c'est potentiellement un truc qui serait inarrêtable. Bah, sur les deux dernières saisons, il en joue moins que des mecs comme Sabonis, Gobert et Adebayo, alors qu'il devrait constamment être impliqué sur ce genre d'action. Et par rapport au supporting cast, je vous trouve assez sympathique. Bledsoe, ça fait 2 ans que c'est un fantôme en playoff. Je regardais les drafts des Bucks, ils ont sorti Giannis, mais ça fait 10 ans qu'ils sortent personne à la draft.
Ah oui.
Ils ont ramené Marvin Williams, qui c'est incroyable. Enfin, à ce niveau-là, c'est un culot incroyable de sortir Marvin Williams d'entre les morts. Et je trouve qu'en fait, les beaux role-players de saison régulière ne le sont plus en playoff. Alors certes, Giannis arrive peut-être pas à insuffler quelque chose, mais je trouve que cette équipe manque désespérément de quelqu'un qui puisse tenir la balle, qui s'appelle pas Giannis.
Tout à fait. Alors là, je pense qu'il y a un deuxième cas à régler dans cette équipe, c'est qu'on nous a survendu les Bucks, ça joue bien, ça joue bien. Non, Non, Giannis, il crée pour lui, il crée pas pour les autres, et il part se faire son spin move ou son layup dans la raquette, et il n'y a pas de création outre mesure. L'assist percentage de l'équipe, il est très bas, et ça ne m'étonne pas, c'est leur jeu. Il ne joue pas en création. Et à partir du moment où Giannis était un peu bloqué et du coup empêché ces espèces de passes évidentes parce que finalement il se faisait bloquer et réceptionner dans la raquette, ben tout le jeu offensif s'est enrayé avec aucun plan B et ils ont rien fait du coup. Ils ont rien fait et même là où ils étaient bons sans être bons en transition, bah finalement comme leur défense était en faillite, pas de transition, pas de points faciles.
Et dans tout ça, t'as Budenholzer qui en fait qui coach et qui dirige son équipe comme si c'était comme si les playoffs étaient une simple continuité de la saison régulière.
Aucune adaptation.
Oui, de manière chronologique effectivement, mais quand même on est censé basculer dans un autre monde et s'adapter un minimum aux différentes situations, différents systèmes et différentes équipes qui viennent face à toi. Enfin, je veux dire, t'es pas en termes de basket, t'es pas l'équivalent du Barça de Guardiola, c'est-à-dire que c'est pas toi qui va imposer ton jeu aux équipes adverses. Il va falloir un minimum d'adaptation et à aucun moment. Que ce soit même face au Magic, hein. À aucun moment tu le vois en fait dériver de ce qu'il a proposé pendant toute la saison régulière. Il a très exactement transposé ce qu'il faisait, juste en écartant évidemment certains role players qu'on pouvait voir de temps à autre. Mais bon, ça c'est la loi des playoffs, donc il est pas non plus idiot au point de lancer des Robin Lopez dans l'arène, mais au bout d'un moment, il aurait fallu qu'il s'adapte à certaines situations et à aucun moment il a été en capacité de le faire, au point même de se dire que il serait peut-être temps aussi d'augmenter, comme on veut la coutume, le temps de jeu de ses stars.
Ça n'a aucun sens. Manager les stars en playoff, ça n'a aucun sens.
Encore plus dans un contexte de bulle où t'as pas de voyage.
Oui. Et moi là où j'ai beaucoup de reproches à faire, défensivement, les choix de Budenholzer sont mauvais. Il y a pas de gants, sont mauvais. Comment, face à une équipe du Heat, où tu sais que tu n'as pas une seule menace offensive, mais tu en as de partout. Le problème du Heat, c'est ça. C'est que tu en as de partout des menaces offensives. T'as un Tyler Hero, t'as un Duncan Robinson, t'as un Jimmy Butler, t'as un Goran Dragic, enfin, Jay Crowder, Andre Iguodala, t'en as de partout. On m'explique pourquoi est-ce qu'il a tout le temps surchargé la raquette pour libérer le shooter? En fait, ça ne marche pas. À partir du moment où tu n'as que des joueurs compétents pour scorer à tout moment, enfin, Jay Crowder, il s'est fait plaisir hein, pendant toute la série.
Incroyable. Mais là où je te trouve, alors je comprends, il y a juste un truc, je pense qu'il n'a pas été assez dit quand on a abordé cette série. Il y a eu 3 matchs entre les Bucks et le Heat dans la saison régulière. Le Heat en a gagné 2, le seul qu'ils ont gagné c'était dans la bulle sans Butler et Dragic. C'était de base une équipe qui posait problème. Donc en fait, on aurait dû anticiper ces problèmes-là. La grosse défense des Bucks, c'est une grosse défense parce que historiquement et on l'a fait en plus.
On
savait que ça allait poser
problème. Est-ce que franchement sur l'aspect visuel et purement on va dire statistique est-ce qu'on les voyait quand même se faire défoncer à ce point-là? Parce que
non.
Il y a quand même un monde entre ce qu'on a pronostiqué avec quand même une grosse touche d'affection. Il y avait quand même un désir auprès de.
Ah non, moi j'aime pas vraiment le Heat en fait. Hein. C'était vraiment.
non, mais là, enfin, franchement, c'est incroyable ce qui s'est passé. Enfin, se prendre 4 ouais. Face au Heat, c'est enfin totalement inattendu.
Parce que on va totalement déborder sur les Bucks sont très fertiles, le sujet Bucks est très fertile. Il fallait défendre comment, Madiane, parce que on voyait bien que offensivement les end off avec Adebayo et Adebayo qui servait un peu de central, ça posait extrêmement de problèmes.
Il a fait très mal.
Tu sortais Lopez, il fallait défendre comment, parce que t'as les problèmes Hero, Duncan Robinson qui shoot à 3 points, Butler, Dragic qui peuvent vivre sur le mid-distance et tu peux pas décemment... Enfin, pour moi, le gros problème des Bucks, c'est qu'à aucun moment, Bud, il a voulu imposer Giannis en 5, qui aurait pu résoudre beaucoup de problèmes.
Oui, exactement. Et en fait, il a laissé être, entre guillemets, inutile sur Jay Crowder pour aller surcharger la raquette à chaque drive. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas. Enfin, c'est suicidaire de faire ça contre une équipe composée d'autant de bons shooters. Et encore, dans leur choix, heureusement que Duncan Robinson met que 35% au tir, hein. Parce que s'il est dans ses standards habituels, c'est encore pire. C'est ça. Enfin, pour moi, tu ne peux pas. Moi, je pense qu'ils n'auraient jamais dû tenter de doubler dans la raquette. Ils auraient dû mettre Giannis en 5 sur Bam Adebayo et couvrir chaque joueur en individuel et switcher tout le temps et essayer de parce que c'est, finalement c'était seule façon quand tu as des menaces offensives de partout. Et ça aurait pu au moins changer la donne et pas te laisser tout le temps un joueur ouvert. Sur chaque drive. À chaque drive, il y avait un joueur ouvert et à chaque fois, il se faisait sanctionner. Ils ont choisi, je pense, le seul poison qu'ils ne pouvaient pas en fait compenser. Tu peux choisir en fait de te faire, tu es obligé de faire des choix à un moment, de laisser quelque chose à l'adversaire. Mais j'aurais préféré que tu laisses un peu plus de layup à cette équipe du Heat. Parce que t'es battu sur le switch et du coup le gars a un peu d'avance sur toi, il va te mettre le layup. Et encore, franchement, avec un Giannis, est-ce que c'est pas peut-être l'un des rares joueurs qui est capable de te rattraper ce genre de situation sur les picks, et ça aurait pu poser des soucis au Heat.
Bah c'est ce que Adebayo a fait pendant toute la série, hein. C'est-à-dire que il a passé son temps à compenser, c'est-à-dire même dans certains switches qui pouvaient être ratés, tu voyais qu'il y en avait toujours un qui revenait, qui arrivait à compenser, à essayer justement de combler les brèches. C'était Adebayo. Il a fait une série incroyable. Moi, j'avais déjà en affection ce joueur, mais là, pour moi, il est vraiment en train de se révéler dans la cour des grands. Voilà. Enfin, on va pas commencer à revenir sur ce qu'ils font en fait les vrais grands joueurs, c'est-à-dire les phases éliminatoires que sont les playoffs. Mais l'activité d'Adebayo a été un problème pendant toute la série pour les Bucks. Budenholzer a pas réussi à s'adapter, et vu qu'il ne s'adaptait pas, Spoelstra en a profité en lui infligeant d'ailleurs à Adebayo, qui est une sorte de Iron Man, il lui a infligé des temps de jeu assez incroyables. Il sortait que très peu, et donc bah forcément le problème était permanent. Tu pouvais le mettre que ce soit avec Butler et les gros shooters, que tu pouvais le mettre aussi également avec des joueurs un petit peu plus besogneux, mais en fait pendant toute la continuité de la série, Spoelstra a joué comme ça. Donc, et il est. On a même vu que dans certaines situations, il avait cette capacité à stretcher et caler non pas forcément des shoots à trois points, mais des shoots à mi-distance, qui rendait le problème encore plus insurmontable pour Milwaukee. Donc, effectivement, on a beaucoup insisté sur le fait que les Bucks se soient ratés, mais alors Miami, ils sont en train de faire des playoffs. Oui. Assez incroyable, c'est-à-dire que sur 9 matchs, ils en ont perdu un de manière, voilà, un petit peu miraculeuse.
Eh ben, on va pas respecter l'ordre des choses, on va directement enchaîner. Je pense qu'on a, pas mal parlé de Miami, donc autant revenir un peu sur Miami. Donc, on a parlé de Miami sur cette future finale de conf qui s'annonce entre les Celtics et le Heat. Je mets les Lakers de côté parce qu'on va parler des Lakers après. Est-ce qu'on a là deux des trois meilleures équipes de la bulle pour l'instant?
Ah, c'est compliqué parce que j'ai du mal à évaluer. Enfin, le Heat m'a l'air très très sérieux, très fort. J'ai du mal à évaluer. Alors, les Raptors se sont accrochés à la série, certes, mais c'était un peu miraculeux d'en arriver à cette match, honnêtement.
Ouais,
c'était...
Boston mérite de passer, ouais.
Boston mérite de passer, et c'est presque bizarre que cette série soit partie en 7, alors que pour moi, elle était quasiment finie en 5. Enfin, sans quelques miracles et quelques calls houleux, ça.
Oui, dont on a beaucoup entendu parler de la part d'Alan.
Oui, tout à fait. Absolument. On avait toutes les images, hein.
Seconde par seconde.
Tout à fait. En tout cas, j'arrive pas à savoir si les Raptors étaient si forts que ça, parce qu'il y a quand même la contre-perf de Siakam, il y a eu des choses un peu bizarres du côté des Raptors qui font que j'ai du mal à évaluer cette équipe. Après, le Heat, oui, pour moi, ils se sont montrés très forts, et au-delà de ça, c'est ce que je disais, c'est que ils ont eu la chance, en fait, c'est que ils ont pu intégrer Crowder et Iguodala à leur dispositif. Et surtout Crowder, plus simplement que finalement ils étaient arrivés juste avant la pause et moi je voyais le potentiel de ces intégrations, mais j'avais du mal à voir tout de suite l'effet. Et comme ils ont eu la bulle, ils ont eu ce moment, ça a été un restart, bah je pense que ça fait partie des grands gagnants de la bulle. Si la saison avait continué comme d'hab, peut-être qu'ils auraient pas été à ce niveau défensif. Et là, ils ont pu se mettre en place défensivement, donc c'était déjà une attaque très décente et c'est devenu également une très bonne défense.
Je reste très séduit. Je trouve qu'on peut quand même juger les Celtics parce que si je te prends un peu à revers, Madiane, et je vais te donner la parole, Ilias, donc le Heat joue une équipe des Bucks qui était quand même en dessous de tout, quand même faut l'avouer. Et au tour d'avant, ils jouent les Pacers qui, on l'avait dit nous-mêmes, n'avaient pratiquement rien à faire là. Enfin, les Pacers étaient pas vraiment dignes d'un premier tour de playoff. Je dis pas que gagner 8 matchs sur 9 c'est donné, mais je dis que je pense qu'on n'a pas encore vu la meilleure version du Heat. Là où sur séquence, j'ai trouvé les Celtics extrêmement impressionnants. Alors ils en lâchent plus, mais je trouve que déjà, moi j'ai été impressionné, même si encore une fois les Sixers étaient une autre équipe pas vraiment au niveau par leur premier tour par rapport aux Sixers, et face aux Raptors défensivement, parce que c'est la meilleure défense pour l'instant dans cette bulle. Alors on dira que oui, ils ont pas joué les meilleures attaques, il n'empêche que leur defensive rating est largement au-dessus des autres équipes. Je sais pas si t'es d'accord Elias, mais les Celtics, et ça me fait très peur parce qu'on va devoir supporter un Allen de Boston, et vous le vivez pas trop lui, mais moi en tant que fan de NFL je l'ai vu avec les Patriots et c'est extrêmement effrayant. Les Celtics sont tout ce qu'il y a de plus fringant. Enfin, clairement.
En fait, c'est dans d'autres circonstances qu'on présentera les Celtics. Mais pour moi, ils sont tout aussi impressionnants que Miami. Je m'explique. Ils sont déjà face à une équipe qui, selon moi, était très très forte. Des Raptors qui, pour moi, là, c'est clairement la défense de Boston et le coaching de Brad Stevens qui les a fait déjouer, en tout cas sur certains matchs. Et surtout, on est face à une équipe qui a été très rapidement handicapée dans ses playoffs par la blessure d'un joueur qui n'est peut-être pas forcément majeur, qui n'est peut-être pas dans le top 3 des joueurs des Celtics, mais qui en tout cas pouvait très certainement apporter entre au moins 30 et 40 minutes par match dans la personne de Gordon Hayward. Le fait d'avoir un effectif aussi serré, des noms pas forcément ultra ronflants sur le banc, et produire ce qu'ils ont produit, que ce soit en attaque et surtout en défense, moi j'ai trouvé, et comme toi un petit peu Ben, les Celtics extrêmement impressionnants. Et justement, enfin, personnellement, moi en tout cas, j'en salive déjà de la série face à Miami. Hein. Là, on va être face à deux grosses défenses. Là, on va être vraiment face à du pur basket de conférence Est. Et enfin, en tout cas, l'opposition va être intéressante. Et il est intéressant de voir un petit peu aussi la capacité à progresser et la manière dont sont mis en avant des joueurs comme Jaylen Brown et Tatum. Moi, je me rappelle qu'on se posait un petit peu la question en début de saison, à savoir maintenant que Kemba a signé et que Kyrie est parti, à qui appartient cette équipe ? Eh bien là, on voit clairement que cette équipe, elle appartient aux deux jeunes des Celtics, que sont Jaylen Brown et Tatum. Peut-être Tatum avec un poil d'avance, mais je trouve que il faut pas sous-estimer Jaylen Brown, qui apporte énormément des deux côtés du terrain et qui, à mon avis, va nous sortir. Enfin, en tout cas, les deux risquent de nous sortir quelque chose de pas mal face à Miami.
Clairement. Et à noter aussi côté Celtics, selon moi, la clé de cette série, ça restera quand même Kemba, parce que, alors, c'est un débat qui oppose un peu, enfin, pas qui oppose, mais c'est un débat, moi, que j'ai une question que j'ai toujours sur l'impact de Kemba en playoff. On l'a vu par séquence qu'il a eu un rôle extrêmement important, mais on a aussi vu qu'un Kyle Lowry, à un moment, a su le mettre, clairement, le mettre dans les cordes. Et le problème, c'est que la structure d'équipe du 8 pourrait lui poser de gros problèmes. Enfin, le Heat pourrait très facilement profiter de sa taille, qui est selon moi un gros gros problème.
Bah, le problème de Kemba, c'est qu'il est par rapport à Lowry, c'est que Lowry est un joueur chiant à défendre et chiant à attaquer. C'est un joueur qui peut être extrêmement fort des deux côtés du terrain, et on voit que Kemba en a souffert. Là, il aura également des oppositions assez complexes face à Miami, parce que ça peut switcher, et quand bien même il pourrait avoir des mismatchs entre guillemets face à des joueurs comme Adebayo, ça risque d'être assez compliqué. Mais si en tout cas Boston veut espérer quelque chose face à Miami et atteindre la finale NBA, ça passera par le fait qu'on ait un grand Kemba, parce que là, il faudra clairement que toutes les forces force des Celtics et que les planètes soient toutes alignées pour pouvoir passer, à mon avis, ce Heat.
Ah, donc, avant de... Dans cette mini-preview bilan, vous voyez, on est en freestyle, là. Le Heat est favori, selon vous?
Ah non. Ah, j'ai pas dit ça, moi.
Ah.
Franchement... c'est...
Ah, c'est dur.
Moi, pour moi, ça va aller en 7. Ça va aller en 7, après... sachant qu'on est dans un contexte de bulle et que forcément bah il y aura pas d'avantage du terrain et donc pas de d'équipe qui jouera face à son public, moi je vois la série aller en 7.
Moi c'est ça va dépendre de pas mal de choses. Je trouve le Heat très profond et les Celtics un peu limités malheureusement avec le nombre de joueurs qui peuvent faire entrer et avec des apports limités. Et en cela, la bonne nouvelle du potentiel retour de Gordon Hayward qu'on a perdu au tout début de ces playoffs, c'est peut-être quelque chose qui pourrait leur permettre justement de tenir un peu mieux la comparaison. Je dirais que si Gordon Hayward n'est pas là ou pas du tout à un niveau à peu près décent pour aider à faire des rotations, ça peut devenir quand même très vite compliqué. Mais c'est une série et que je trouve extrêmement incertaine. Je donne un petit avantage au Heat, peut-être un peu plus à l'expérience. Mais comme on se disait dans la conversation, Butler, c'est pas LeBron James. Et pourtant, LeBron, il l'avait envoyé en 7 matchs il y a 2 ans. Donc, ces jeunes Celtics proposent d'excellentes choses. Tatum est quand même... extrêmement bon, vraiment, et je trouve qu'il fait d'excellents playoffs et vraiment il a une gestion des matchs, il y a eu des moments où il essayait d'envoyer les Raptors loin dans le momentum du match et on sentait qu'il avait ce petit truc où il essayait de mettre les espèces de coups de poignard pour vraiment faire mal à l'équipe en face psychologiquement. En prenant la balle et en allant scorer tout seul par moment. Donc je trouve ça bien, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais en tout cas ça va peut-être une des séries que je vais suivre le plus attentivement, peut-être même plus que la future série à l'Ouest.
Et en quelques mots, juste pour parler de les Raptors, alors moi j'ai un grand thème en quelques mots de pour chacun. Pour moi c'est demi-finale de conf, c'est la mort du fit. Je m'explique. Voilà, ces équipes parfaitement axées sur le fit avec une philosophie, elles se sont fait tordre parce qu'en face il y avait des équipes peut-être moins bien d'un point de vue, je sais pas, construction peut-être moins bien faite mais plus talentueuse, et je trouve que ces Raptors en sont un des symboles. Le fit était bon, mais on a vu d'abord que je trouve que ça réhabilite un peu ce qui s'est passé l'année dernière. C'est que, alors, on est passé d'un extrême à Kawhi, c'était les Raptors, il a tout fait, à « Ah bah, regardez cette équipe-là, sans Kawhi, elle peut faire quelque chose ». Non, on a très clairement vu que sur cette série-là, il leur manquait quoi ? Il leur manquait un mec qui, à part moment, prenait la balle et mettait 30 points.
Je suis moyennement d'accord, Ben. Je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement parce que j'estime qu'ils avaient peut-être pas... un joueur similaire à Kawhi, mais ils avaient clairement en tout cas un joueur identifié et qui en plus cette année était All-Star titulaire à l'Est en la personne de Siakam, qui avait fait une première partie de saison régulière, donc d'avant-bulle, qui était exceptionnelle. Il était sur des standards assez incroyables. Évidemment, moi j'étais pas de ceux qui pensaient que ça allait durer, mais je pensais pas non plus que le gap entre le niveau qu'il avait atteint lors de la saison régulière et celui qu'il a affiché dans la bulle pourrait être aussi éloigné. Donc moi je pense que si on avait eu ne serait-ce qu'un Siakam à un niveau décent, c'est-à-dire je sais pas moi, au moins capable de mettre 25 points par match, et surtout un joueur qui avait été essentiel l'année dernière et qu'ils avaient fait venir pour ça, mais la série de Marc Gasol, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Il en est arrivé en fait à un point, là on parle même plus de fit ou de quoi que ce soit d'autre, là on parle d'un joueur qui est devenu pénalisant pour son équipe.
Et je vous trouve, je sais pas, parce que d'un côté, Siakam, tu le dis, c'est une surprise pour personne que s'il se révèle pas, qu'il continue pas sur la lancée de sa saison régulière. C'est un peu comme les Bucks. En fait, je trouve ça bizarre. on fait des conclusions sur des trucs qui nous surprennent pas.
Non, mais je comprends. Non, mais là, après, il y a quand même quelque chose de surprenant à voir Siakam aussi
nul. Ah oui,
nul.
Là, il est vraiment nul.
Tu vois, c'est...
Il avait la tête dans le sol.
Voilà, c'est-à-dire que il a peut-être commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau et... parce que c'est ce qu'il y avait un petit peu de flagrant dans son jeu, c'est que à aucun moment il était spontané dans sa manière de jouer. Là où il jouait avec énormément, voilà, il était totalement décomplexé l'année dernière, parce que évidemment c'était pas le leader. Il y avait des joueurs avant lui, il y avait Lowry, il y avait Kawhi, des joueurs qui étaient clairement dans la hiérarchie devant lui. Cette année c'était différent, mais tu le voyais prendre des initiatives, par exemple en début de saison régulière, il disait OK, j'ai signé un contrat max. Ça, désormais, maintenant que Kawhi est parti et que Lowry, voilà, il est peut-être en fin de parcours chez nous, la franchise a misé sur moi. Je vais vous montrer que cette équipe de Toronto, cette équipe de Raptors, ça va être la mienne. Franchement, moi, j'étais bluffé par son niveau et à aucun moment, on a pu se dire que sa place de titulaire dans le 5 à l'Est pour le All-Star Game était usurpée. Mais là, le niveau... Le problème, c'est que le niveau qu'il a affiché pendant la demi-finale de conférence, il datait pas du début des playoffs ou du début de la série face aux Celtics. Il datait depuis le début de la bulle. À aucun moment, il a été, on va dire, dans des conditions, on va dire, optimales pour pouvoir montrer ce qu'il affichait à minima pendant la saison régulière. Et c'est en ça que j'ai trouvé ça surprenant parce que avec un niveau, je pense, un petit peu plus supérieur, je pense qu'on aurait pu voir des Raptors encore plus chiants pour les Celtics. Alors qu'on va pas se mentir, hein, si Anunobi met pas son shoot miraculeux en 0-5, donc c'est un dixième de plus que ce qu'on pourrait appeler le Fischer. La série, elle est pliée bien avant. Là, c'était vraiment un changement de momentum. Donc clairement, c'est avec un Siakam légèrement supérieur, on aurait pu avoir quelque chose de bien mieux pour les Raptors.
À noter, quoi qu'il en soit, pour les Raptors, que Serge Ibaka est en fin de contrat, Fred VanVleet est en fin de contrat, Marc Gasol est en fin de contrat, et il ne reste qu'à un an. Il reste que un an à Kyle Lowry sur son contrat, donc clairement, on est sur peut-être une fin de cycle, même sûrement. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes, messieurs, donc on va basculer de l'autre côté des États-Unis ou alors de l'autre côté de la bulle. Oui, peut-être on va y revenir, mais moi j'ai aussi du mal à... Quand un mec a fait une grosse saison régulière et s'est cassé les dents dans la bulle, j'ai eu difficulté à lui... C'est tellement un contexte particulier qu'en fait, j'ai du mal à tomber sur des personnes, ce qui n'est pas le cas de certains joueurs qui contre-performent depuis 5 ans en play-off et on s'étonne toujours.
Je te sens dans un de tes combats, Ben.
Je suis dans
je
un de mes combats.
Je te soutiens si tu me soutiens dans celui contre Giannis.
Je sais pas pourquoi, je sens que ce qu'on va aborder là va nous projeter sur une image d'Adrien face à une piscine en train de siroter un cocktail.
Et Tom également. Hein.
Pas un cocktail, mais on va peut-être parler du positif, c'est vrai pour une fois. Et messieurs, c'est Lakers qui ont donc fait le même coup qu'au premier tour. Une défaite au premier, attention, panique dans la maison, et puis ils en gagnent 4 suites. Ce qui fait que les Lakers, sur le début de ces playoffs dans la bulle, c'est la troisième meilleure attaque, la troisième meilleure défense, la meilleure équipe au net rating. Question classique, question first take, est-ce que maintenant on y croit les gars pour les... Est-ce que c'est les Lakers dont on rêvait depuis le début de la saison?
Alors,
maintenant.
Rêver, je sais pas. En tout cas, moi j'étais inquiet. La perte d'Avery Bradley, le contexte, est-ce que LeBron sera focus sur ses playoffs? Bon, on a passé tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a extrêmement réjoui en fait dans ce que j'ai vu de ces Lakers, c'est que ok, ils perdent le Game 1, mais surtout ils ont pris la mesure et pris le pas de plus en plus régulièrement. Sur cette équipe des Rockets, qui est peut-être une des équipes où je trouve qu'il est le plus dur de défendre convenablement et régulièrement. Je sais pas si vous vous souvenez, on se disait que de cette équipe qui a été un peu insweepable, parce qu'il suffit qu'ils mettent tout dedans et puis ils vont gagner le match et tu ne peux rien faire. Eh ben, 112, 109, 102, 100, 96. L'attaque des Rockets, c'est au fur et à mesure réduite et de manière très régulière, et à côté de ça, c'est l'attaque des Lakers qui a pris le pas sur la défense des Rockets. Évidemment, comment? Bah, l'accès à la raquette, où les Lakers se sont fait extrêmement plaisir finalement, où malheureusement ils ont exploité à merveille la faillite défensive de Westbrook et de James Harden, et je mets les deux dans le dans le panier. C'est-à-dire que vraiment, défensivement, ils ont tous les deux été très limites, je trouve. Et bon, alors, ils pouvaient presque rien faire au vu de leur manque de taille, mais voilà, ils ont pu, à la fois avec leur taille, punir offensivement, et ils ont quand même réussi à les contenir défensivement. C'est, enfin, c'est quasi parfait, hein. Ils perdent le game one, mais après, c'est, ils mettent 4 tartes de suite et c'est fini, quoi. Et je les ai trouvés extrêmement forts, extrêmement impressionnants. Et le collectif, en fait, a été au rendez-vous. C'est surtout ça, l'information. C'est pas que LeBron a dit. C'est collectivement. Tu sens un groupe. C'est quelque chose que je vois pas forcément dans l'autre équipe de Los Angeles. Et c'est effectivement par ce biais-là qu'il pourrait effectivement finir tout en haut de ses playoffs.
Même constat pour toi, Ilias. Est-ce que il y avait des doutes, clairement, on en parlait dans notre épisode tous ensemble, on en parlait entre nous autour de ces Lakers, un peu en parallèle avec une autre équipe de Los Angeles. Est-ce que là on voit ces Lakers en pleine forme, comme l'a dit un peu Madiane, très fort dans l'attaque, poser question aussi, hein. Et je trouve que c'est peut-être de ce côté-là du terrain qu'on a eu le plus de réponses.
Alors écoute, on peut encore se référer à notre émission d'avant playoff où on était tous là, et j'avais été d'ailleurs le premier à intervenir sur le niveau des Lakers et ce qu'ils pourraient afficher. Et en fait, ils ont réussi, en tout cas, à répondre à la très grosse interrogation que j'avais, c'est-à-dire est-ce que les role players qui entourent AD et LeBron vont être au niveau? Et la réponse est oui. Moi, je tiendrais aussi à faire un petit big up à quelqu'un qu'on mentionne pas assez, et c'est Frank Vogel. Je trouve qu'il drive très bien cette équipe, qu'il a été, je pense, un peu sous-estimé dans la course au coach de l'année, et que si il y a bien quelqu'un qui est adepte et spécialiste de la défense, c'est bien lui. On se rappelle un petit peu de son passage à Indiana. Il a clairement pris un parti pris, celui déjà d'orienter au maximum, même si ce dernier a essayé de se balader un petit peu, celui d'orienter James Harden le maximum vers sa droite, de manière voilà à éviter de le faire agir sur sa main forte. Il a privilégier le fait que également des prises à deux soient faites sur James Harden, ou en tout cas des espèces de fausses prises à deux avec un joueur qui à chaque fois venait se décaler, quitte à légèrement délaisser un joueur dans le corner au cas, mais en gros la consigne est claire, c'est ne pas laisser James Harden nous faire un festival à 50 points. Et de toute façon, quand bien même l'accès au cercle serait ouvert, on a des joueurs, on a un joueur comme AD qui est ultra mobile et ultra dissuasif pour pouvoir, compenser quelqu'un qui pourrait accéder au cercle. Donc, ils ont fait ça toute la série. On parlait tout à l'heure de Budenholzer. S'il y a bien un autre coach qui ne sait pas vraiment s'adapter et qui cherche à totalement imposer son rythme aux autres équipes, c'est bien Mike D'Antoni. Et on voit que sur toute la longueur de la série, Frank Vogel l'a mis minable. C'était assez criant. Et même s'il y a eu par moments pour les Lakers des petits trous d'air en défense, ce qui a été impressionnant, c'est de voir justement que c'était assez bien réparti en attaque. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. À un moment dans la série, Frank Vogel a pris la décision de ne plus jouer avec les grands. Exit Dwight Howard, exit JaVale McGee. Il a carrément mis Markieff Morris en 5.
Quelle tristesse.
Et le pire, ils ont fait un small ball avec Anthony Davis, LeBron James, Markieff Morris. Ça reste quand même très...
Oui, ça reste grand, mais on parle pas de pivot identifié.
Ah, oui.
Là, on est vraiment face à des joueurs qui peuvent s'écarter. Markieff Morris, maintenant, à part sur le plan défensif, c'est quelqu'un, c'est un stretch five, si tu dois le considérer comme un pivot. Donc,
oui.
Voilà.
Mais en fait, moi, j'aimerais revenir sur un truc. Vogel s'est adapté et c'est très bien adapté, mais il y a un truc qui est important, c'est que pour moi, D'Antoni pouvait rien faire. Malheureusement, il avait aucune alternative. Je vois pas ce qu'il peut faire en fait. Il peut juste accepter la défaite. Ça ne marche pas en fait. Ils doivent tellement être forts offensivement pour réussir à gagner ça. Ils l'ont pas été. Ils se sont fait éteindre.
Et moi, j'ai une question.
Je vois pas
pour
ce qu'ils
vous,
peuvent faire.
D'ailleurs, Ben. N'hésite pas à intervenir. On continue ça après. On continue à trouver ça normal après 17 saisons, ce que fait LeBron.
Ah non, mince, je pensais qu'on allait me lancer sur Harden. Quelle déception.
Non, mais on y viendra, Harden. Non, mais parce que vu qu'on était dans le positif et qu'on parlait
non,
des Lakers...
Il est, non, on... non, il est... J'avoue, j'étais parmi les gros... J'avais des doutes, parce que je me disais, ah, on continue à mettre les LeBron sur le trône ou sur le podium, hein, et ça faisait quoi? Ça faisait 18 mois qu'on l'avait pas vu en playoff. On commençait à dire, ah, c'est peut-être Anthony Davis, la vraie option des Lakers, et LeBron est un 1B. Que nenni, LeBron est un AA, c'est un alpha dog et c'est toujours lui le patron.
C'est
impressionnant.
Justement, ah, je trouve pas ça normal, l'anormalité LeBron James en fait. C'est pas normal qu'après 17 saisons, tu sois encore à ce niveau. Et le mec défend.
Oui, ça répond aussi aux questions parce que honnêtement, pendant son passage à Cleveland, il défendait pas. Et là, on le revoit défendre dans une osmose défensive. C'est bien de donner du crédit à Jacques Vaughn, pas du tout Frank Vogel. oula, la traumatisme Orlando. C'est bien lui donner du crédit. Ouais, enfin personnellement, je pense et j'ai rarement dû dire ça de ma vie, c'est LeBron qui m'a le plus surpris.
Parlons du Young. Ouais. La perf de Westbrook, on peut peut-être lui trouver des circonstances atténuantes.
Qui s'est fait contrer 218 fois par LeBron dans la série.
mais il revenait de blessure, c'était compliqué. Oh, ok, je passe. Ok. James Harden, on en dit quoi maintenant?
Silence.
vous voulez me lancer, c'est ça. Vous êtes juste là pour ça. Vous êtes là pour les clics. Vous savez que c'est le moment où ça va. Moi, en fait, je demande à quel moment on continue cette mascarade, à quel moment. Et moi, il faut aller vraiment loin, parce que je suis quelqu'un de mauvais, fondamentalement, pour que j'aie de la peine à voir un sportif. J'ai de la peine, parfois, à voir James Harden dans une fin de match de playoff, parce qu'il ne va plus vers la balle comme il peut le faire en saison régulière. Il ne va plus vers la balle, il fuit la balle. On peut dire tout ce qu'on veut de Westbrook. Westbrook, c'est pas, alors il va mettre des briques parfois, oui. C'est pas un mec qui a peur du moment.
Bah, c'est différent.
Je trouve.
Harden a peur et Westbrook fait n'importe quoi.
C'est ça. C'est le pire cocktail. Ouais. Oui, voilà, c'est exact. C'est le pire cocktail. Et non, alors il y a des questions qui se posent par rapport à James Harden. Est-ce que c'est, je trouve qu'il y a une ressemblance entre Harden et Giannis. C'est qu'en fait, on les fait jouer un basket tellement caricatural. En saison régulière, qu'on en a transformé leur jeu. C'était, je crois, Kevin O'Connor, de journaliste de The Ringer, qui mettait ça sur Twitter. Harden, c'est un très bon mec off-screen. Harden, il y a des phases de son jeu où il est très fort. Elles ont disparu à Houston parce que c'est cette espèce d'homme orchestre qui a 42 usage et qui a tout le temps la balle.
Alors, il y a quelque chose, c'est que si on regarde très précisément James Harden... C'est assez hallucinant. James Harden dans le quatrième quart-temps. À votre avis, combien de points met James Harden dans le dernier quart-temps de la série?
En total?
Non, en moyenne. En moyenne, sa moyenne sur les derniers quart-temps.
5?
Ouais, 4,8. Quel pourcentage? 37,5% au tir.
Mon Dieu.
Avec 1,2 assist et 0,6 perte balle. Bon, ok. Peut encore passer sur ça. Mais... C'est pas ce qu'on attend de lui. C'est clairement pas ce qu'on attend de lui. Et tu as raison de dire qu'il nous fait de la peine. Mais c'est insuffisant. C'est peut-être le moment où on a besoin le plus de lui. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a, chez ce joueur, c'est vrai qu'il n'a jamais été dans la conversation des gens clutch. Mais moi, j'ai l'impression que il a une tendance à avoir peur de ces moments-là. Comment peut-il laisser Russell Westbrook gérer la fin de match?
Et tu sais,
c'est
quoi,
lui, Madiane, c'est son équipe.
Madiane, il suffit de se reporter à l'année dernière. C'est-à-dire que on a tendance un petit peu à utiliser ce terme un peu galvaudé de Black Mamba pour Kobe, etc. De mec qui a tendance à sentir le sang, etc. Bah, même si c'est un terme un petit peu exagéré, tu dois savoir profiter de certains moments de défaillance de l'adversaire, de moins bien, d'une blessure ou de choses comme ça. Et en parlant de blessure, l'année dernière, quand KD se blesse, James Harden ne prend plus le ballon, comme tu viens de le souligner. Comment c'est possible un truc pareil? Toi qui as vu ton joueur, en tout cas ton sidekick principal l'année d'avant, se faire la cuisse et ne pas participer au game set qui aurait pu envoyer Houston vers une finale et pourquoi pas un titre, comment tu peux ne pas profiter du fait que le meilleur joueur de l'équipe d'en face se fasse le tendon d'Achille pour ne plus prendre un seul ballon et prendre le match à ton compte dans le money time. Alors que tu fais ça tout le reste de l'année et tout le reste du match. C'est vrai que c'est une vraie question qui se pose avec James Harden, c'est-à-dire cette capacité à se cacher alors qu'il est tellement visible pendant tout le reste de l'année.
Mais il est tellement fort.
Le langage du corps est incroyable. Enfin, j'en reviens à ces fins de match où tu vois qu'il ne se bat plus pour la balle en fait. Alors on sait Harden loin du ballon, même en saison régulière, c'est pas le joueur le plus actif. Mais là, même pour se défaire du marquage adverse, on voit qu'il veut pas être là. Et moi, ça me fait limite de la peine. La stat passée sur ESPN, j'ai réussi à faire une capture d'écran dans un moment de vivacité. Sur les 6 derniers matchs à élimination de James Harden, c'est moins de 24 points de moyenne. Donc, pour un joueur de son acabit, c'est peu. Moins de 40% au tir. Il est en dessous de 30% à 3 points et il perd presque 7 ballons par match. Enfin, il déjoue complètement devant l'adversité. Et alors, pour moi, la grande conclusion de ça, c'est et là j'englobe un peu tout l'épisode, c'est que je vous l'ai dit cette semaine dans nos messages, il faut créer, je pense, une autre catégorie. C'est-à-dire qu'on met souvent les superstars, on en met 7-8. Non, en vrai, des mecs qui peuvent gagner un titre. Je crois que ça fait 10 ans qu'on se voile la face. Ouais. Il y en a 3. Il y en a 3 qui peuvent gagner un titre en option numéro 1. Ils s'appellent LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant. Ça fait 10 ans que un de ces 3 mecs-là gagne le titre. Il y a l'exception de l'année des Warriors. Certes, il faut une exception partout.
Kawhi, c'est quand même, enfin, tu sais, quand tu comptes les 2 titres de Kawhi, il y a quand même le fait que lui soit opposé quand même à des Warriors meurtris et le fait que l'autre fois où il est champion, c'est dans un contexte Spurs où il est un peu MVP par défaut. Donc, moi, j'ai quand même LeBron et Kevin Durant tout en haut de la montagne. Je dirais même, j'ai LeBron tout en haut de la montagne. KD un cran en dessous et parce que lui aussi a gagné dans un contexte un peu particulier et Kawhi juste après.
Oui clairement c'est pour moi clair qu'il y a un gap, qu'il y a un trou et que typiquement j'ai défendu Curry tout à l'heure. Il est pas au niveau de ces joueurs là alors je le défends parce que effectivement on peut dire que c'est une anomalie, le trip des Warriors, etc. Ok, et je pense qu'effectivement, avec des Cavs au complet, ils gagnent jamais contre LeBron. Néanmoins, bon, il n'a pas été non plus ridicule totalement, mais c'est clair que il lui manque le fait de mieux jouer, en fait, dans ces moments-là. C'est-à-dire que LeBron, en saison régulière, il est en claquette. KD, il est en chaussons. Kawhi, il joue un match sur deux. Il s'en bat le steak. Et par contre, quand il y a le playoff, les trois, ils sont.
Mais ça, les gars, est-ce que ça, on l'a pas galvaudé? Cette capacité que ces joueurs-là ont à atteindre le zénith en playoff, j'ai l'impression qu'on en est ça. Et c'est un peu le résumé de notre épisode. On attend ça de trop de mecs. En réalité, il y en a très peu qui peuvent faire s'asseoir sur une équipe.
Mais non, mais Giannis, il a joué en chaussons toute l'année. Ouais. Il s'asseyait à la fin du troisième quart.
Madiane, il joue en chaussons, il tape des stats qu'on n'a jamais vues.
Ouais, ils sont dans la discussion pour la MVP à chaque fois, quoi.
Ouais, mais le truc, c'est que, alors, ok, James Harden, moi, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en fond, en saison régulière. J'ai pas cette sensation de chaussons chez James Harden. Par contre, Giannis, c'est pour ça que je reproche énormément de choses. C'est que, il jouait pas non plus des minutes de ouf en saison régulière et t'avais cette sensation que la saison régulière il peut laisser limite le banc des Bucks et ils vont défoncer des équipes à l'est et finalement on s'est rendu compte que non. Donc, effectivement, il n'y est définitivement pas et c'est pour ça que c'est dur pour lui. À part ces trois là qui peut faire ça en playoff, quoi?
Moi, les gars, j'ai juste envie. C'est pas une stat, hein. C'est juste un petit chiffre, mais James Harden, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça hier en y pensant quand j'ai vu qu'il venait de se faire encore éliminer avec Houston. Il vient de boucler sa 8e saison avec les Rockets.
C'est la question qui commence à se poser du côté des États-Unis. C'est est-ce que c'est pas le moment de... Moi, le problème, on va finir là-dessus, on parlera rapidement de Nuggets Clippers. Moi, le problème, c'est qu'ils sont dans une situation insoluble. Ils ont un nouveau proprio qui veut pas dépenser la taxe. Ça fait quelques mois qu'il est là, il veut pas passer au-dessus de la taxe. Le contrat de Westbrook peut pas être bougé, et il y a très peu, ils ont aucun bon jeune joueur, ils ont aucun mec valable de moins de 25 ans. Je vois, en fait, j'ai l'impression que le seul moyen pour cette équipe de changer radicalement, c'est de trader James Harden, et pour moi, tu le fais pas. Alors, j'ai beau l'avoir saucissonné, on traite pas un mec comme James Harden.
Ouais. Mais bon. C'est quoi les
En tout cas, c'est la fin d'Anthony. Ça, c'est sûr, c'est la fin d'Anthony. Il est plus sous contrat l'année prochaine. C'est la fin d'Anthony, je pense.
Je sais pas. En fait, ils ont tellement tout donné à fond dans leur délire absolu. Et le Moribol que... Comment tu changes après ça? Comment tu fais, en fait? T'as Westbrook et James Harden. Tu fais quoi, en fait, maintenant?
Par exemple, je pense que tu peux, c'est bien d'ailleurs. Enfin, Ben, t'as très vite identifié Harden sans forcément mentionner Westbrook, parce que honnêtement, qui peut prendre la responsabilité du contrat de Westbrook sur les prochaines années?
Personne.
Aujourd'hui, imaginez-vous l'inversement des tendances. Chris Paul, on était là à dire l'année dernière que c'était fichu, il était sur sa fin de carrière et plus personne ne voudrait de son contrat. Aujourd'hui, je suis à peu près sûr qu'on aura des équipes qui vont se positionner sur lui dès l'été prochain. Par exemple, au hasard, hein, une équipe qu'on a mentionnée pendant tout le long du podcast et qui pourrait peut-être devoir se pencher dessus, les Bucks, tiens. Tu vois?
Ouais. Non, mais c'est vrai, je lisais ça. Bah, j'allais te couper pour dire ça, justement. Je lisais ça sur un article, je crois, The Athletic, qui expliquait, je lis la phrase et je vois le contrat de Chris Paul qui, maintenant, est largement plus échangeable que celui de Westbrook. Et j'ai pris un pas de recul en lisant cette phrase et je me suis fait la même réflexion. Mais l'évolution en 12 mois, elle est incroyable. Enfin, incroyable. Donc, ouais, ces Rockets, ils sont un peu dos au mur et... Ouais. Ils ont fait des choix et là, bonne chance, parce que pour moi, ça rentre dans le même type de réflexion. Hein. C'est ce que j'appelle la mort du fit, c'est-à-dire que ce qui à trop vouloir mettre des joueurs qui se ressemblent ou qui intègrent une idée de jeu, parce qu'il manquait quoi au Rockets, c'est des mecs capables de scorer à l'extérieur, dribbler, sortie de dribble, qui s'appelle pas James Harden. Ils leur ont manqué ça un moment sur la série.
Ben, Madian, est-ce que... Enfin, là, ils ont tenté un énième coup de poker. On sait que Morey, il est toujours enclin à sortir un trade venu de nulle part. Mais là, clairement, on est face à une catastrophe industrielle. Tout simplement parce que l'équipe que tu avais pendant la période Chris Paul-James Harden était nettement plus forte que celle-ci. C'est-à-dire celle composée de PJ Tucker, Eric Gordon, James Harden, Chris Paul, Clint Capela, etc. Et c'est vrai que voilà, Covington est capable d'apporter des bonnes choses, mais c'est pas non plus le joueur clé qui va te faire basculer d'une équipe potentiellement championne à une équipe qui va être quasiment championne. Non, on n'en est pas là. C'est-à-dire que des choses ont été tentées, mais qui au final ont été contre-productifs, parce que on a maintenant l'impression que les Rockets sont régressés, tout simplement.
Et ce qui fait peur, c'est que, on va en finir là-dessus, ce qui fait peur, c'est que quand on regarde le paysage de l'Ouest, les Lakers sont là, les Clippers seront là l'année prochaine, faire attention aux Mavs qui commencent à toquer à la porte, les Warriors seront de retour.
Les Nuggets sont devant, hein.
Les Nuggets sont... Enfin, c'est pas super rassurant, sachant que tu vas perdre des joueurs. Un mec comme Austin Rivers, c'est en fin de contrat. Enfin, c'est pas super rassurant. Houston, c'est un sujet qu'on pourra aborder cette intersaison. C'est pas super, super rassurant ce qui va se passer. Et enfin, là, même pas en quelques mots, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que les Clippers vont passer?
Oui, ce serait une catastrophe s'ils ne passaient pas.
Non, moi, les gars, il y a même pas de machin catastrophe. Non, ils vont passer. C'est juste que faut qu'ils arrêtent de faire les Mongols, mais c'est non mais ils vont passer. Enfin, après, le seul truc, c'est que les Clippers, il y a un truc qui vient de manière récurrente dans beaucoup de leurs matchs, c'est qu'ils ont une capacité à se prendre des runs de l'espace, alors qu'ils sont censés avoir une défense forte. Je dis bien censé, parce que là où je trouve que des équipes comme Miami et les Lakers, quand bien même ils sont pourvus sur le plan athlétique, hein, là où des équipes comme même les Celtics, le Heat, enfin les Lakers, enfin toutes les équipes en bonne santé dans ces playoffs, là où ces équipes, j'ai l'impression que ils défendent de façon intelligente. J'ai l'impression que les Clippers, c'est surtout sur la capacité de leur individualité défensive et sur leur capacité athlétique qui sont amenés à pouvoir faire déjouer leurs adversaires. Mais ils n'ont pas encore de force collective en défense qui leur permettrait justement d'éteindre totalement une équipe. Et justement, c'est qu'ils le font une fois sur deux quasiment, sachant que très régulièrement ils se prennent des runs, que ce soit face aux Mavs, que ce soit face aux Nuggets, et ils sont amenés à perdre des matchs que normalement ils auraient dû boucler sans aucun problème avec un minimum de gestion et le fait d'être constant en défense. Mais ce qui n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à travailler. T'as pas l'impression que ça progresse, mais bon, je dis ça et ils vont être champions, quoi.
mais on va conclure là-dessus, mais ça revient un peu ce qu'a pu dire Adrien, c'est que on voit clairement qu'il n'y a pas de lien encore. On va arriver en finale de conf et il y a toujours pas de lien. On en parlera la semaine prochaine, peut-être que d'ici là les Clippers, qui ont quand même toujours un potentiel de destruction énorme, peut-être qu'ils réussiront à probablement battre les Lakers sur le premier match, parce que les Lakers ont décidé de toujours perdre le premier match d'une série, visiblement. Mais on pourra discuter de ça la semaine prochaine. Alors là, je vous ai dit, les gars, j'ai un peu d'expérience dans le métier. On s'est un peu aliéné, je pense, la fanbase des Bucks, des Rockets, Nabil Djellit aussi, probablement. Et ça va être assez compliqué. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast. Si c'est Apple Podcast, laissez 5 petites étoiles. Ça fait toujours plaisir de vous abonner également sur Twitter. Et puis nous, alors on enregistre, les Clippers vont commencer dans quelques minutes. Donc messieurs, je vous propose de vite courir vers vos téléviseurs, comme on disait au 20e siècle. Et puis de regarder cette série. On vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Salut.
Salut. Salut.
Bonne semaine.